Bonjour à tous. Un peu plus d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, des membres de la commission d'enquête du Sénat seront sur place aujourd'hui. Alors que l'inquiétude de la population perdure, les questions continuent d'affluer, nous dira l'avocate juriste de l'association pour l'information sur les problèmes pénaux. C'est une grève générale qu'Emmanuel Macron a vue hier à La Réunion pour l'accueil de cette première journée de visite du président de la République dans ce territoire où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Reportage dans ce journal. Nous irons aussi en Israël après l'échec de Benjamin Netanyahou à former un gouvernement. Benny Gantz a 28 jours maintenant pour relever le défi. Quelles sont ses chances d'y parvenir? Analyse d'Alice Froussard depuis Jérusalem dans ce journal. L'inquiétude persiste et beaucoup de questions restent encore en suspens un peu plus d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Alors que des membres de la commission d'enquête du Sénat se rendent sur place aujourd'hui, la VIPP, l'association d'aide aux victimes et information sur les problèmes pénaux, a mis en place une sorte de guichet unique depuis lundi à la mairie. Ce sont des bénévoles comme la juriste Véronique Delaunay qui tentent d'apporter des réponses aux habitants.
Il y a besoin d'être, en tout cas, faute d'être vraiment rassuré, en tout cas, il y avait un besoin d'être pris en considération. C'est des gens qui se sentent quand même victimes, même si, a priori, on nous a bien dit, effectivement, qu'il n'y avait pas de personnes qui étaient décédées ni blessées. Il y a des personnes, quand même, qui se sentent victimes parce qu'elles ont été très mal pendant plusieurs jours, elles ont été perturbées dans leur vie quotidienne, elles ont des angoisses. J'ai eu beaucoup d'appels de femmes enceintes qui avaient, là, effectivement, des grosses angoisses et qui, en plus de ça, n'avaient pas forcément toujours eu le bon interlocuteur pour les rassurer, ou en tout cas, le médecin qui va prendre en considération ces craintes.
Véronique Delaunay, juriste de l'association AVIPP, au micro France Bleu Haute-Normandie de Christine Wurtz. 200 personnes ont déjà contacté l'association. Deuxième journée de visite à La Réunion pour Emmanuel Macron. Hier, il a été accueilli par une grève générale dans ce territoire où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage atteint 24% et même 42% chez les jeunes. Reportage sur place de Yannick Falt.
Emmanuel Macron prend la température dès son arrivée, un bain de foule pourtant très encadré sous des trombes d'eau, place de la Victoire.
La vie chère, parce que ici vous avez vu, c'est cher, on ne peut plus vivre. Est-ce que vous pourrez vivre avec moins de 1 500 € ici à La Réunion?
La vie chère, une expression refrain dans les discours, tout comme les problèmes d'emploi, parfois sur des sujets très spécifiques, exemple la faillite de la compagnie XL Airways.
Je suis au RSA, mon mari ne travaille pas. Et nous, tu devrais voyager, mais...
Je sais, après, il faut qu'on l'aide à ce qu'il trouve un travail pour qu'il puisse
On attend que ça, justement.
Trouver un travail, c'est la priorité de Grégory, 35 ans, dans un domaine pourtant très porteur.
Je recherche en plus dans l'informatique. Il y a pas mal d'opportunités en principe, mais c'est quand même très compliqué sur l'île de La Réunion. On voit très peu d'offres d'emploi et c'est vrai que c'est difficile de postuler et trouver un emploi.
Près d'un réunionnais sur quatre est au chômage, 42% des jeunes surtout, de quoi inquiéter jusqu'aux lycéens, comme Maël, tout juste 16 ans.
Est-ce qu'on va pouvoir, même en ayant un diplôme, trouver un emploi à l'avenir? C'est vrai que pour chercher un emploi, ce serait beaucoup plus facile en métropole et j'ai déjà songé, oui, à partir.
Changement d'ambiance à 8 km de là, rond-point de Gilot à côté de l'aéroport. Rendez-vous des gilets jaunes il y a un an. Ils sont cette fois une centaine, la plupart sans gilet, dont Joséphine, une aide-soignante.
Les gens en général ont besoin de voir des choses concrètes, de payer moins cher quand ils passent à la caisse. Les belles paroles, je pense qu'on en a un peu marre. Il y a le monopole des grandes familles coloniales qui sont encore en activité à La Réunion. On voit les gros groupes, voilà, il n'y a rien qui est fait, rien.
Allez, bonne réunion, sans taper dehors, viens.
L'ambiance s'échauffe, l'expression d'un ras-le-bol pour Bruno, un éducateur de 47 ans.
Les Réunionnais, ils n'ont rien quand les enfants ils ouvrent le frigidaire, il n'y a que des briques de lait et des biscottes. La Réunion est en train de devenir misère, il n'y a pas de travail, il n'y a plus rien à La Réunion.
Quelques jets de pierres et de bouteilles, un portrait d'Emmanuel Macron brûlé, le rassemblement est dispersé à coups de gaz lacrymogène, un mouvement désormais marginal mais en voie de radicalisation pour les autorités locales.
Yannick Falt, dès son arrivée, Emmanuel Macron a promis une exonération supplémentaire de cotisations patronales à hauteur de 35 millions d'euros, mesure votée hier soir par l'Assemblée nationale. En Bolivie, grève générale aussi hier pour contester les résultats toujours provisoires de l'élection présidentielle. Evo Morales, au pouvoir depuis 13 ans, a répété encore hier qu'il était certain d'avoir remporté l'élection dès le premier tour. Il dénonçait une tentative de putsch, mais les résultats sont toujours partiels et certaines estimations publiées il y a quelques heures laisse supposer à nouveau la possibilité d'un second tour face à Carlo Mesa. Dans le Chili voisin, la contestation sociale se poursuit. Des milliers de personnes sont encore descendues dans la rue hier, notamment dans la capitale Santiago. Les émeutes ont éclaté depuis vendredi. Elles ont fait 18 morts et les annonces sociales hier du président Piñera n'ont pas apaisé la colère. Benny Gantz pourra-t-il réussir là où Benjamin Netanyahou a échoué? La mission aujourd'hui du rival centriste de l'actuel Premier ministre israélien est de former un gouvernement. Il aura 28 jours pour y parvenir. S'il y parvenait, ce serait un exploit mettant fin au règne de celui que l'on surnomme Bibi, au pouvoir depuis 2009. D'autant plus que l'ex-général de l'armée est arrivé en politique il y a moins d'un an. Alors quelles sont les chances de Benny Gantz? Alice Froussard nous appelle de Jérusalem.
Autant mathématiquement qu'idéologiquement, les chances de Benny Gantz de former une coalition sont encore plus faibles que celles de son rival. Deux options s'offrent à lui. Soit il forme un gouvernement d'union nationale, mais en acceptant Benjamin Netanyahou et avec une alternance à la tête de l'État. Soit il privilégie un gouvernement minoritaire de centre-gauche. Ce serait du jamais vu en Israël et une probable paralysie politique car il ne pourrait pas imposer son agenda législatif. Sauf s'il y a des surprises, sauf si certains députés du parti de Netanyahou décident de lui faire défaut, la mission relève donc de l'impossible. Benny Gantz n'est pas un magicien, soulignent les observateurs de la politique israélienne. Mais l'idée de se rendre aux urnes pour la troisième fois en moins d'un an révulse la plupart des Israéliens. L'ex-général pourrait donc miser sur cet argument, miser sur un changement d'époque pour convaincre. D'autant que de troisièmes élections n'éclairciraient pas forcément la situation. Car selon un récent sondage de l'Institut israélien pour la démocratie, une écrasante majorité de la population pourrait revoter exactement de la même manière.
Alice Froussard à Jérusalem pour France Culture. De l'autre côté de la frontière, l'Égypte tente actuellement de sortir de l'impasse dans les négociations en cours avec l'Éthiopie au sujet du grand barrage que construit actuellement Addis Abeba sur le Nil Bleu. Le Caire a accepté hier une proposition américaine de médiation alors que le ton n'a cessé de monter au cours des jours précédents entre les dirigeants éthiopiens et égyptiens. Les précisions au Caire de Martin Roux.
Aucune force n'entravera la construction du barrage. Le premier ministre éthiopien a haussé le ton mardi face aux provocations du Caire. Le lauréat du prix Nobel de la paix n'a pas non plus hésité à ajouter que son pays était prêt à mobiliser des millions d'Éthiopiens. Après des mois de négociations, les positions de ces deux puissances régionales restent irréconciliables et le Caire redoute de plus en plus d'être mis face au fait accompli sans accord relatif au partage des eaux du Nil, alors que le grand barrage de la Renaissance est déjà achevé à 70% et qu'il pourrait produire ses premiers kilowatts à la fin 2020. Rêve de développement pour l'Éthiopie qui va plus que doubler sa production d'électricité. Pour l'Égypte, ce barrage construit sur l'affluent principal du Nil est perçu comme une menace existentielle. Actuellement, les tensions portent sur le temps de remplissage de l'immense réservoir. Le Caire voudrait étendre cette étape au maximum pour éviter une baisse trop forte du débit du fleuve qui représente 90% de ses ressources en eau. Le président égyptien compte ainsi sur le soutien d'une médiation internationale et vient d'accepter une rencontre chapeautée par les États-Unis. Avant cela, Abdel Fattah el-Sissi pourrait rencontrer aujourd'hui son homologue éthiopien à Sotchi, en marge d'un sommet Russie-Afrique. Dans ce bras de fer interminable, l'Éthiopie n'infléchit pour l'heure en rien ses projets et a tout intérêt à faire durer ses négociations.
Martin Roux pour France Culture. Les 39 corps retrouvés dans un camion près de Londres hier sont toujours en cours d'identification. Le camion arrivé de Belgique, le conducteur, un jeune homme originaire d'Irlande du Nord, a été arrêté. Pour l'instant, personne ne confirme que les victimes seraient des réfugiés clandestins, mais la police britannique travaille en liaison avec la brigade criminelle spécialisée dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Au Louvre, aujourd'hui, c'est une exposition très attendue qui s'ouvre. L'exposition Léonard de Vinci, 500 ans après la mort du génie de la Renaissance italienne. Exposition qui affiche déjà complet 260 000 billets déjà achetés en pré-vente. Alors face à l'affluence, réservation indispensable. La météo, deux départements sont toujours placés en vigilance orange ce matin. Alerte aux orages et aux inondations sur l'Hérault et la Haute-Corse. Alerte levée en revanche sur les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Attention donc sur ces départements. Des orages sont annoncés également, mais pas d'alerte sur la Bretagne et la Normandie. Les Pays de la Loire aussi sont concernés par des averses. Temps sec annoncé partout ailleurs. Les températures sont comprises entre 12 et 20 degrés ce matin, avec 12 degrés à Amiens, 13 à Paris, 15 à Lyon et jusqu'à 20 degrés sur la Corse.